VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du mercredi 16 novembre 2016. Au sommaire ce soir...
À Bruxelles, une conférence des donateurs se prépare pour financer le relèvement de la République centrafricaine.
L'odontol, un alcool réputé dangereux, a fait 21 victimes au Cameroun.
En Côte d'Ivoire, le procès pour crime contre l'humanité de Simone Gbagbo se poursuivra, mais sans elle et avec des avocats commis d'office.
La fermeture de Dadaab au Kenya, le plus grand camp de réfugiés au monde, est repoussée à fin mai.
La Russie veut retirer sa signature du statut de Rome, créant la Cour pénale internationale.
Les sports et l'économie, juste après le journal.
Ce mercredi, l'Union européenne, les Nations unies et les grandes ONG humanitaires ont multiplié les plaidoyers en faveur de la Centrafrique en vue de la grande conférence des bailleurs de fonds prévue demain à Bruxelles. Cette réunion a pour but de lever les fonds nécessaires à la reconstruction de la RCA. Le point avec Dili Diko.
L'Union européenne organise une grande conférence de bailleurs de fonds en faveur de la Centrafrique. Le président Faustin Archange Touadéra, déjà sur place, présentera un plan quinquennal pour restaurer la paix, reconstruire l'armée et l'administration d'État, assurer des services sociaux de base et relancer l'économie. À cet effet, il demandera aux donateurs une enveloppe de plus de 3 milliards de dollars. De leur côté, les ONG ont attiré l'attention sur l'urgence des besoins humanitaires les plus immédiats et rappellent que près de la moitié des populations centrafricaines nécessitent une aide humanitaire et le pays compte près de 850 000 réfugiés ou déplacés internes.
En Côte d'Ivoire, le procès pour crime contre l'humanité de l'ancienne première dame Simone Gbagbo se poursuivra sans elle et avec des avocats commis d'office. C'est une décision prise par le juge Boaki Kouadjo, président de la cour d'assises à Abidjan. Bagassi Koura nous en dit plus.
Madame Gbagbo a encore refusé de comparaître et ses avocats étaient absents à la séance. Le juge Kouadjo a estimé qu'on pouvait passer outre la présence de Madame Gbagbo et poursuivre les débats. Il a commis d'office des avocats et renvoyé l'audience au 28 novembre. Madame Gbagbo refuse de comparaître depuis plusieurs séances pour protester contre la non-comparution en tant que témoin de plusieurs personnalités, dont Guillaume Soro, actuel président de l'Assemblée nationale et ancien chef de la rébellion, Jeannot Kouadio-Aoussou, ancien premier ministre, ou Charles Kofi Dibi, un ancien ministre. L'ancienne première dame comparaît pour son implication présumée dans des crimes lors de la crise post-électorale de 2010 et 2011 qui a fait plus de 3000 morts en 5 mois. Simone Gbagbo a déjà été condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État.
Le Nigeria, qui a cédé à l'Angola la place de premier producteur africain de pétrole, à nouveau attaqué par les vengeurs du Delta. Le groupe rebelle armé a revendiqué aujourd'hui des attaques contre les oléoducs des compagnies Egypt, Shell et Oanda, des attaques qui pourraient bien entraîner une nouvelle chute de la production de brut locale. Ces nouveaux raids interviennent alors qu'un autre oléoduc a été saboté lundi dans l'état de Bayelsa. Aucune confirmation des attaques n'a été apportée par les autorités nigérianes ou les sociétés concernées.
Restons au Nigeria, l'un des 5 pays les plus touchés par le terrorisme au monde. Le terrorisme y a fait 10% de morts en moins l'an dernier, selon l'index du terrorisme mondial, même si 2015 est la deuxième année la plus meurtrière jamais vue. Ce recul est attribué principalement à un affaissement de Boko Haram et du groupe État islamique dans le pays. L'index note cependant que l'expansion des activités de ces deux groupes dans d'autres pays entraîne de nouvelles menaces. Boko Haram aurait ainsi fait augmenter le nombre de victimes du terrorisme de 157% au Niger, au Cameroun et au Tchad. Le groupe État islamique et ses groupes affiliés sont quant à eux actifs dans 15 nouveaux pays.
En Tunisie, un homme a menacé de se faire exploser dans un bureau de poste de Tunis avant que les forces de l'ordre ne découvrent que son sac contenait des pâtes, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Le gouverneur de Tunis s'était rendu sur place pour négocier avec le suspect en présence des unités sécuritaires sur place où il a été maîtrisé. Les motivations de l'homme ne sont pas connues.
En Égypte, un policier ayant tué un marchand ambulant après une dispute sur le prix d'un verre de thé a été condamné aujourd'hui à la prison à vie, soit 25 années de détention, a-t-on appris de sources judiciaires. Il peut encore faire appel de ce verdict. Les abus policiers avaient été l'un des principaux facteurs de la révolte populaire qui a chassé du pouvoir Hosni Moubarak début 2011. Mais ces pratiques sont redevenues monnaie courante sous le président Abdel Fattah al-Sissi.
En Afrique du Sud, deux fermiers blancs âgés de 28 ans et 29 ans poursuivis pour avoir tenté d'enfermer vivant un jeune noir de 27 ans dans un cercueil sont maintenus en détention provisoire. L'affaire a éclaté après la diffusion récente sur Internet d'une vidéo de 20 secondes montrant le supplice infligé au jeune homme. Ce fait divers suscite un vif émoi en Afrique du Sud où il rappelle les tortures infligées aux noirs par la minorité blanche pendant le régime raciste de l'apartheid officiellement enterré en 1994.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Violence au Yémen, où les combats entre rebelles et forces loyalistes ont fait au moins 51 morts dans leur rang en 24 heures, indiquent des sources militaires. Les affrontements se poursuivaient ce mercredi, autour de midi, une ville portuaire du nord-ouest du pays, proche de la frontière saoudienne, selon les mêmes sources.
Nouveau raid des chasseurs bombardiers russes et syriens dans la province d'Idleb et les quartiers rebelles d'Alep. Ces raids et des tirs d'artillerie ont tué une vingtaine de civils à Alep et 6 dans la province d'Idleb, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme basé à Londres. La situation est particulièrement préoccupante à Alep, où l'aide humanitaire, plutôt l'aide alimentaire, arrive à épuisement. Après un siège de 4 mois, ont averti des sources humanitaires.
En Afghanistan, un attentat suicide contre un minibus officiel a tué au moins 6 personnes et blessé 10 autres ce mercredi près du ministère de la Défense à Kaboul. L'attentat a été revendiqué par le groupe État islamique.
Les États-Unis sont en bonne voie pour réaliser leurs objectifs climatiques et ne pourront pas revenir en arrière. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi le secrétaire d'État américain John Kerry à la conférence de l'ONU sur le climat à Marrakech au Maroc. Détail Nani Talani.
Je peux vous dire avec confiance que les États-Unis sont aujourd'hui en bonne voie de réaliser les objectifs internationaux qui ont été fixés. Je ne pense pas que cela sera inversé, en particulier pour des raisons économiques liées aux forces du marché, a déclaré John Kerry à Marrakech. Dans son discours, le secrétaire d'État américain s'est montré confiant et rassurant face aux incertitudes soulevées par l'élection de Donald Trump, qui avait menacé d'annuler les engagements américains au sommet sur le climat à Paris. Je ne peux spéculer ici sur les politiques que le président élu va mener. Ce que je peux vous dire est ceci. Certaines questions prennent un aspect bien différent quand vous êtes au pouvoir de l'aspect qu'elles avaient pendant la campagne, a avancé John Kerry en marge de la conférence de Marrakech. Plus de 360 entreprises, la plupart américaines, ont écrit au président élu Donald Trump pour lui demander de respecter l'accord sur le climat adopté en 2015.
Le bilan des différents drames survenus depuis lundi à bord de canots de migrants au large de la Libye est passé de 11 morts et 230 disparus, tandis que le nombre de migrants secourus en 5 jours a égalé le total de 3200 enregistrés en novembre 2015. Depuis le 1er janvier, l'Italie a vu arriver plus de 167 000 personnes sur ses côtes, selon le ministère de l'Intérieur.
La Russie a annoncé son intention de retirer sa signature du statut de Rome, le traité fondateur de la Cour pénale internationale, reprochant à cette instance de ne pas être véritablement indépendante et de ne pas avoir été à la hauteur des espoirs placés en elle. Les détails avec Tatiana Mosso.
Moscou a signé en 2000 mais n'a jamais ratifié le statut de Rome portant création de la CPI. La diplomatie russe reproche à l'instance judiciaire de se focaliser sur les crimes présumés des milices ossètes et des troupes russes en Géorgie, passant selon elle sous silence les actions présumées des troupes géorgiennes. La CPI avait annoncé fin janvier ouvrir une enquête sur la guerre entre la Russie et la Géorgie en 2008, sa première en dehors de l'Afrique. Elle enquête également sur le soulèvement pro-européen du Maïdan en Ukraine et le conflit qui a suivi dans l'est du pays, où Moscou a été accusé de soutenir militairement les séparatistes pro-russes. 3 pays africains, la Gambie, l'Afrique du Sud et le Burundi, ont récemment annoncé leur intention de se retirer de la CPI. Les États-Unis et la Chine ne sont pas états partis au statut de Rome.
Des milliers de professeurs, infirmiers, pompiers et policiers manifestaient ce mercredi au centre de Rio contre une série de mesures d'austérité proposées par le gouvernement de cet État du sud-est du Brésil en pleine crise financière.
Oui, et à la mi-journée, des échauffourées ont commencé entre policiers et un groupe de manifestants qui tentaient de franchir les barrières métalliques protégeant le bâtiment de l'Assemblée législative de Rio. La semaine dernière, quelques 200 fonctionnaires et policiers avaient envahi l'Assemblée législative et cassé des ordinateurs pour protester contre ce plan d'austérité.
Ici aux États-Unis, les démocrates du Sénat ont élu aujourd'hui Chuck Schumer à leur tête, un poste d'où il mènera l'opposition au président républicain Donald Trump à partir de janvier. Bernie Sanders, le sénateur indépendant et socialiste du Vermont qui défia Hillary Clinton aux primaires présidentielles, a quant à lui fait son entrée dans l'équipe de direction. Même chose pour la sénatrice anti-Wall Street Elizabeth Warren du Massachusetts qui fait partie de cette équipe. Les républicains gardent leur leadership au Sénat avec Mitch McConnell. À la Chambre basse, Paul Ryan reste en place, mais les démocrates décideront du sort de Nancy Pelosi après la fête de Thanksgiving, le jour des actions de grâce. Donc ce sera à la fin de ce mois de novembre.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Et nous passons tout de suite à la Minute Éco. C'est un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. Présentation Nanit Talani.
Au Gabon, Banque publique d'investissement de France va structurer un fonds de garantie de 10 milliards de francs CFA pour les petites et moyennes entreprises. Le ministre gabonais des PME, Biendi Magonga Moussavou, a indiqué hier que son administration finalise la structuration de ce fonds. Une convention d'assistance technique sera signée demain à Abidjan entre l'État gabonais, BPI France et l'AGF pour la constitution du dit fonds. La Banque mondiale envisage un nouveau plan de financement de 1,5 milliard de dollars par an d'ici 2020 pour accroître son soutien aux pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord dans la lutte contre le réchauffement climatique. Au cours des 4 prochaines années, l'institution compte doubler la part des financements dédiés au climat pour la zone. L'augmentation des températures fragilise le secteur agricole de la zone qui dépend aux 2/3 des précipitations. La sécheresse qui a sévi en 2015 a fait perdre au Maroc, par exemple, 50% de sa production de blé et environ 1,5% de son produit intérieur brut. Enfin, la filiale kényane de Barclays Bank Group a annoncé aujourd'hui que son bénéfice avant impôt a chuté à 86 millions de dollars durant les 9 premiers mois de 2016, en baisse de 4,4% par rapport à la même période de 2015.
Place au sport à présent avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Anastasie.
On commence avec la troisième étape du Tour cycliste du Rwanda.
L'Américain Timothy Rugg remporte la troisième étape entre Karungi et Rusizi, 2 petites secondes devant le Rwandais Joseph Areruya. Au général, c'est le Rwandais Valence Ndayisenga qui reste leader avec 1 minute 16 secondes d'avance sur son compatriote Joseph Areruya. À suivre demain, la quatrième étape entre Rusizi et Ouye, longue de 140 km.
En football, le Brésil toujours en tête en Amérique du Sud pour la course à la qualification au Mondial 2018.
Le Brésil a souffert face au Pérou la nuit dernière à Lima avant de signer une 6e victoire consécutive, victoire 2-0. À la tête de l'attaque de l'Argentine, Lionel Messi a inscrit 1 but et fait 2 passes décisives dans un match crucial contre la Colombie avec une victoire qui relance les Argentins 3-0. Le Chili a laissé passer la furie uruguayenne en première période, concrétisée par un but de Cavani pour finalement renverser la Céleste 3-1. A noter qu'Alexis Sanchez a inscrit un doublé.
Et dans la zone CONCACAF, ça va mal pour les États-Unis.
Ah oui, les Américains ont compromis leur chance de qualification pour le Mondial en sombrant la nuit dernière face au Costa Rica. Défaite 4-0, la deuxième en 5 jours. Le Mexique a concédé un nul au Panama 0-0. Quant au Honduras, il s'est repris en battant Trinité et Tobago 3-1.
Basket maintenant avec la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Le champion en titre Cleveland a consolidé sa première place en venant à bout de Toronto 121-117. Seul Atlanta semble pour le moment en mesure de suivre ce rythme infernal de Cleveland. Les Hawks ont déjà 8 victoires à leur actif après le succès à Miami 93-90. Les Lakers, vainqueurs de Brooklyn 125-118, continuent de surprendre et peuvent rêver aux playoffs. Avec Chicago, Dwayne Wade a écrasé Portland 113-88.
Merci Nicolas Pineau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Anastasie Tudiaché et chérubin Gabi Dorsil, en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale, le Cameroun, Gabi.
Tragédie dans ce pays où 21 personnes sont mortes dans la région de l'Est après avoir consommé de l'odontol, boisson locale vendue dans le circuit informel et réputée très toxique. Plusieurs victimes sont hospitalisées dans la localité d'Abongbang. Pour un éclairage, Timothée Dounangmaï a joint à Yaoundé de l'or Magellan Kamseo Kamgeng, président exécutif de la Ligue camerounaise des consommateurs.
Le dentol, c'est un breuvage traditionnel avec un taux d'alcool très fort et qui contient même le méthanol. C'est une substance très dangereuse pour l'organisme. Donc du coup, ce n'est pas une question qui échappe aux autorités. Hein. Les autorités ont bien conscience du fait que c'est une boisson dangereuse, mais malheureusement, pas grand-chose est fait pour empêcher sa consommation. Du coup, compte tenu de la modicité de son coût, parce qu'une bouteille d'environ 65 centilitres, ça n'en fait pas. Donc vous comprenez bien que les consommateurs de ce type de produits étant amoureux de moins cher, ils sont donc très partants pour être abreuvés à ce breuvage qui n'est pas de bonne qualité.
Est-ce que la consommation de dentol se limite à une région particulière du Cameroun?
Non, c'est une région qui consomme. Il n'y a pas un tribalisme dans la consommation de ce breuvage. Donc, c'est des gens comme moi à l'Est, mais parfois c'est à l'Ouest, c'est parfois aussi c'est dans les autres régions du pays. Et ça concerne les pauvres, les couches les plus défavorisées, qui n'ont pas accès aux boissons, parce qu'ils ne peuvent pas s'acheter une bière à 500 francs, donc à 1 dollar, hein, puisque là-bas c'est les États-Unis, à 1 dollar. Donc, du coup, ils veulent consommer des choses. Et parfois, pour se sentir fort, comme ils disent, hein, c'est-à-dire pour avoir certaines sensations fortes, et surtout la modicité des moyens, donc l'accès facile à ce produit aidant, ils le consomment tout en parfois ignorant les conséquences et même parfois en étant confiant, ils consomment et puis les répercussions sont là et voilà.
Alors on parle d'une vingtaine de morts dans l'Est camerounais ainsi que des personnes hospitalisées. Quelle est la situation aujourd'hui?
Oui, effectivement, c'est 21 morts de source officielle, donc et des personnes, il y a presque une dizaine de personnes qui sont aussi hospitalisées. Ça c'est de manière officielle hein, et ça ne se passe pas que là-bas. Donc, il y a beaucoup d'autres endroits, mais qui ne sont pas rendus publics. Donc, ça, c'est très de Cameroun hein, que le dentol est là, même en plein capital politique. Donc, ici, à Yaoundé, il y a des lieux qui sont réputés. Hein. Quand vous partez là-bas, vous voyez les gens librement en train de consommer avec la complicité des services chargés et de contrôler et de les refouler. Hein. Donc, du coup, vous comprenez que la Ligue camerounaise est essentielle, mais pas méchante du tout en indexant le gouvernement. Car le gouvernement avait fait correctement son travail, et si les consommateurs n'étaient pas assez pauvres et étaient un peu conscients du danger, ils n'auraient pas pu passer de vie à ce pas.
De l'or Magellan Kamseo Kamgeng, président exécutif de la Ligue camerounaise des consommateurs, joint à Yaoundé.
Cette semaine dans Washington Forum, Donald Trump et l'Afrique. Quelle politique africaine pour le futur locataire de la Maison Blanche? Quid des coopérations militaires sur le continent? Le candidat républicain a enchaîné les déclarations fracassantes sur l'immigration. À quoi doivent s'attendre les immigrés et les sans-papiers africains aux États-Unis? On attend vos commentaires sur la page Facebook de voaafrique.com. Je vous donne rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, avec nos invités.
Au Tchad, le ministre de la Sécurité publique Ahmad Mahamat Bachir a interdit le meeting de l'opposition prévu demain jeudi. Une interdiction sans aucune motivation, selon l'opposition, qui n'entend pas baisser les bras. John Lyndon a joint N'Djamena Saleh Kebzabo, leader de l'Union pour le développement et le renouveau et coordonnateur du Front de l'opposition pour l'alternance et le changement.
Le régime vient une fois de prouver qu'il est antidémocrate, que même les manifestations les plus simples prévues par la loi, que constituent les rassemblements, les réunions publiques, si un parti politique ne peut pas le faire, c'est que nous ne sommes plus en démocratie. Et donc, je pense, comme on l'a fait, nous avons annoncé ce matin que malgré l'interdiction, le meeting est maintenu. Ça veut dire que tous nos militants, tous nos sympathisants viendront au meeting demain comme prévu. Nous ne pouvons pas entériner un déni de loi comme celui-là.
Mais est-ce que le ministre a motivé sa décision?
La décision n'a même pas été motivée. Il a seulement écrit un arrêté qu'il a signé que le meeting est interdit, c'est tout. Bon, on n'a pas motivé. La loi nous donne le droit d'organiser tout cela. Nous, on est dans la loi, on n'est pas hors la loi. C'est eux qui sont hors de la loi et ils deviennent hors la loi. Et donc, je pense que ce qu'il faut, la grande leçon qu'il faut retenir de tout cela, c'est que Idriss Déby n'est toujours pas satisfait de ce que l'opposition italienne n'ait pas provoqué un bain de sang. Donc nous n'allons donc pas par ce meeting attenter à l'ordre public ou à quoi que ce soit.
Mais déjà, pourquoi ce meeting?
Le rôle d'un parti politique, c'était toujours sensibiliser, informer, motiver la population, toujours et toujours. Ça ne s'arrête jamais, ça ne se fait pas seulement en période électorale, ça se fait à tout moment. Et c'est à cela que nous sommes en train de nous livrer, ce n'est pas autre chose.
Est-ce qu'il y a des négociations, des pourparlers, un dialogue quelconque qui a été entamé avec le président Déby et où en êtes-vous?
Le président Déby est enfermé dans sa tour, il est enfermé dans sa bulle, il est devenu inaudible à tout ce qui se passe autour de lui, il ne voit pas ce qui se passe dans son pays, il n'est au courant de rien, il est dans une tour d'ivoire, il voit le Tchad d'en haut, pour lui le Tchad est un pays qui se porte très bien, où les gens vivent en sécurité, mangent à leur faim, sont dans le bonheur absolu, alors que c'est tout à fait le contraire, il ne sait pas du tout ce qui se passe dans son pays, c'est pour cela qu'il refuse le dialogue. Il croit que lui seul a raison, il peut avoir raison de tout le monde, c'est ce qu'il pense. Il a un demi-dieu, c'est ce qu'il pense. Et je crois que les événements qui sont en train de se précipiter dans le pays vont lui donner tort. Dans la région de Mandoul, par exemple, il y a eu des massacres de population. Dans la région de Kélo aussi, il y a eu des affrontements. Donc toutes ces situations-là sont en train de s'amplifier dans le pays progressivement. Il a tout intérêt, je pense, à entrer en dialogue avec l'opposition.
Saleh Kebzabo, opposant tchadien, joint à N'Djamena par John Lyndon.
Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Le gouvernement kényan a repoussé de 6 mois la fermeture du complexe de réfugiés de Dadaab. C'est le plus grand camp de réfugiés au monde qui abrite essentiellement des Somaliens. Nairobi avait initialement envisagé vers la fin de ce mois son démantèlement. Pour réaction, Eric Manirakiza a joint la chercheuse de Human Rights Watch en Somalie et à Dadaab, Laetitia Bader.
Bien sûr, c'est une bonne nouvelle que les réfugiés qui se trouvent à Dadaab vont pas se faire refouler, envoyer de l'autre côté de la frontière dans 2 semaines. Mais bien sûr, le fait qu'il y a encore une date limite, que le camp va encore être fermé, maintenant dans 6 mois, veut dire que la donnée n'a pas tellement changé. C'est pas du tout un changement du contexte en Somalie. Et comme on sait, la Somalie reste un pays en guerre. Il y a plus de 1 million de personnes qui sont encore déplacées en Somalie à cause de l'insécurité et du conflit.
Vous travaillez souvent à Dadaab, vous connaissez ces réfugiés. Quel genre de réfugiés se trouvent dans ce camp et comment ils vivent?
Dadaab existe depuis 25 ans. Il y a plusieurs générations de réfugiés qui sont arrivés dès les débuts des années 90. Il y a certains réfugiés en fait qui ne sont jamais allés en Somalie. Ils sont nés dans le camp de Dadaab. Dadaab, c'est une ville pratiquement de presque 1,5 million de personnes. Donc, il y a des réfugiés qui ont passé toute leur vie à Dadaab. Il y a d'autres qui sont arrivés plus récemment, en 2011, pendant la famine en Somalie. Et beaucoup de ces gens-là sont en fait ceux qui récemment ont commencé à rentrer en Somalie parce que leur situation à Dadaab est particulièrement difficile. Ce sont des réfugiés qui ne sont pas bien établis à Dadaab et leur survie dépend énormément de l'assistance humanitaire qui a été coupée depuis plusieurs mois à Dadaab. Et donc, ils ont de plus en plus dit qu'ils n'avaient aucun choix mais que de rentrer en Somalie à cause du contexte humanitaire et aussi à cause de la pression croissante du gouvernement kényan de les pousser à rentrer. J'ai parlé en fait avec plusieurs habitants de Dadaab aujourd'hui et la réaction a été mélangée, bien sûr, comme toujours. Il y a une femme qui était rentrée récemment en Somalie. Quand elle est rentrée, elle a été gravement blessée dans une attaque par Al-Shabaab à Mogadiscio. Donc elle est revenue à Dadaab et elle a dit aujourd'hui l'humeur est vraiment de nouveau très noire à Dadaab, parce que d'une certaine façon, depuis un mois ou deux, les gens espéraient qu'en fait le gouvernement avait oublié cette idée de fermer le camp, et le fait qu'aujourd'hui ils annoncent une fois de plus que le plan c'est de fermer le camp a vraiment créé une désillusion et une peur une fois de plus dans le camp. Donc bien sûr, il faudrait que le Kenya continue et dise très publiquement aux réfugiés qu'ils peuvent, jusqu'à que la situation s'améliore en Somalie, qu'ils peuvent rester ici au Kenya. D'un autre côté, la communauté internationale a aussi des obligations de continuer à offrir une assistance humanitaire suffisante au camp et en même temps de s'assurer que les pays offrent la relocalisation en fait, des Somaliens aussi dans leurs pays occidentaux.
La chercheuse Laetitia Bader à Nairobi.
La Russie porte un nouveau coup dur à la Cour pénale internationale. Moscou a annoncé son intention de retirer sa signature au traité de Rome, fondateur de la CPI. Après le retrait de l'Afrique du Sud, du Burundi et de la Gambie, c'est un sale temps pour la Cour pénale internationale. Idriss Fall a recueilli la réaction de Reid Brody, avocat défenseur des droits de l'homme.
C'est bien dommage, mais en même temps, ce n'est pas surprenant. La Russie s'oppose à des enquêtes sur les droits de l'homme. La Russie fait l'objet d'une enquête de la CPI pour la guerre en Géorgie. Avec cette action, la Russie envoie peut-être aussi un message à l'administration Trump sur la CPI. Donc la Russie donne une claque et à la CPI et à l'architecture de la justice internationale.
Avant la Russie, il y avait l'Afrique du Sud, le Burundi et la Gambie.
Effectivement, en ce moment, les États sont réunis à La Haye, l'Assemblée des États parties de la CPI, et c'est la plus grande crise que traverse la CPI depuis sa création. Et la Russie met de l'huile au feu.
Le Kenya, l'Ouganda et même la Namibie risquent aussi de quitter.
Il y a d'autres pays, et c'est bien dommage. L'Afrique a soutenu la CPI, les pays africains étaient les promoteurs. Moi, j'étais à Rome avec ces États quand la CPI a été créée. Maintenant que des enquêtes visent quelques dirigeants africains, les États africains disent « Oh non, 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 on veut garder notre impunité ». Et maintenant, ces États veulent priver les victimes et la société civile de ce ultime recours.
Avouez que quand même que la Cour, sur 10 enquêtes, 9 sont menées en Afrique et nulle part ailleurs.
Oui, c'est exact. Il y a un double standard qu'il faut dénoncer. Il faut enquêter sur les autres cas aussi. Comme d'ailleurs cette semaine, la procureure a annoncé qu'elle ouvre une enquête sur les exactions en Afghanistan commises par des troupes américaines.
Vous croyez jamais une seule fois que la Cour pénale internationale pourra traîner un général américain du Pentagone ou un haut responsable de la CIA devant un tribunal?
Ça paraît effectivement très, très difficile. Je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce que les victimes... Moi, comme vous savez, moi, j'ai travaillé pendant 17 ans avec les victimes de Issenabré. Jamais les victimes de Issenabré nous m'ont dit « Attendez, on ne veut pas faire juger notre tortionnaire parce qu'il y a notre tortionnaire qui n'est pas jugé. »
Si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo est en prison à la CPI et les anciens rebelles ivoiriens qui ont tué, vous-même vous l'avez documenté, ils sont en toute liberté et occupent des postes de responsabilité.
Voilà notre contradiction. Parce que jusqu'ici, la CPI n'avait fait que ce que souhaitaient les dirigeants africains. Il faut voir que la plupart des cas, que ce soit le rebelle Lubanga, que ce soit le rebelle Bemba, c'est des opposants dont les poursuites étaient voulues par le pouvoir. Et c'est seulement au moment où la CPI s'attaque aux dirigeants qui sont au pouvoir pour la première fois que les États africains disent « Non, 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 on ne veut pas ».
Reid Brody, avocat défenseur des droits de l'homme.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mercredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Georges Léonard Sagnon a dirigé la mise en onde. À la console, Nelson Lopez, muito obrigado. Présentation, Anastasie Tudiech et Chérubin Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci à vous, nos auditeurs. Merci à nos plus de 2 millions de fans sur Facebook. Continuez à nous envoyer vos commentaires et questions pour nos émissions interactives. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.